Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons, nous allons commencer aussi une nouvelle série de cours. Cette série sera orientée sur les pères de l'Église et en particulier les pères de l'Église du IVe siècle. Donc nous irons la conversion de Constantin au concile d'Éphèse, si nous arrivons jusque-là, en 431. Donc j'ai divisé ce cours en plusieurs sous-parties. Le premier cours donc, qui aura lieu ce soir sera sur l'Empire chrétien. Le deuxième traitera plutôt des courants philosophiques et religieux dans l'Empire. Le troisième sera consacré à Saint Athanase d'Alexandrie, et il y aura deux cours sur Saint Athanase. Le quatrième sera consacré à Saint Grégoire de Nice, deux cours aussi sur Saint Grégoire de Nice. Le cinquième sur Saint Grégoire le théologien, deux cours. Le sixième avec Nestorius et le nestorianisme, avec deux cours, un consacré à Nestorius et le deuxième sur Saint Cyril d'Alexandrie et le concile d'Éphèse. Vous voyez, c'est un programme assez lourd, assez chargé. Le IVe siècle est évidemment un siècle fondamental pour l'histoire de l'Église. C'est peut-être un des siècles les plus riches de l'histoire de l'Église. Nous fêtons actuellement les 1700 ans de l'édit de Milan. Et donc, on fête ça avec un certain phase, et c'est tout à fait normal, parce que cet édit, donc promulgué par les co-empereurs Constantin et Licinius en 313, est un édit de tolérance, permettant à chacun, je cite, d'adorer à sa manière la divinité qui est dans le ciel. Point. C'est une conséquence directe de la conversion de Constantin, qui a eu lieu en 312. Cette conversion apparaît comme tout à fait extraordinaire. C'est vraiment un fait miraculeux, providentiel. Et Constantin a tout à fait conscience de son acte. Il écrira en 314 à des évêques « La sainte piété éternelle et inconcevable de notre Dieu se refuse absolument à souffrir que la condition humaine continue à errer dans les ténèbres. » Il sait vraiment ce qu'il fait, il a pleine conscience de son acte, et on peut dire que c'est sans doute l'un des plus grands événements qui ait connu l'Église. Il marque, d'une certaine façon, la fin de l'Antiquité païenne et le début d'une ère nouvelle. Cette ère chrétienne qui va se prolonger quasiment jusqu'aux révolutions du XVIIIe siècle, sans interruption. Il faut voir que cette conversion de Constantin n'avait absolument rien d'évident. C'est un coup de poker de sa part. À cette époque, on considère que dans l'Empire, il y a environ 5 à 10% de la population qui est chrétienne, donc très peu. La population de l'Empire est évaluée en gros à 70 millions d'habitants. De plus, le christianisme était réparti de façon très inégale dans cet empire, assez faible en Occident, il est très fort, plus fort dans des régions comme l'Asie mineure. Cependant, il faudra attendre 324 avec la victoire de Constantin sur Licinius qui dominait en Orient, pour que l'Empire dans sa totalité devienne chrétien. Constantin aura la sagesse de mener une politique tolérante à l'égard du paganisme. Il assiste aux cérémonies païennes en l'honneur de l'empereur. Il subventionne le voyage d'un prêtre païen en Égypte, mais il n'en pense pas moins. Et il est évident qu'il s'entoure de proches qui sont avant tout chrétiens. Mais il fait très attention de ne pas heurter les païens de front. Pourtant, le IVe siècle avait été un siècle terrible pour l'Église. C'est le siècle où l'Église a connu la pire persécution de son histoire. C'est en particulier la persécution de Dioclétien, inaugurée en 303. Et il ne faudra vraiment qu'un édit d'un certain Galère, un des co-empereurs de la Tétrarchie en 311, pour que cette persécution cesse. Effectivement, à l'époque, il y a quatre empereurs, c'est ce qu'on appelle la Tétrarchie, deux en Orient et deux en Occident. L'Église d'Égypte a été tellement marquée par cette persécution qu'elle placera cette ère des martyrs au début de son calendrier. Cependant, les choses sont loin d'être jouées, si je puis dire, et l'œuvre de Constantin ne sera achevée que bien plus tard, avec l'empereur Théodose, de 379 à 383, qui fera du christianisme la religion de l'État. L'histoire du IVe siècle est marquée par deux sommets, si l'on peut dire. À ces deux sommets correspondent deux grands conciles et deux grandes personnalités de l'Église. Premier sommet, Constantin, 306-337, concile de Nicée, en 325, marqué par une très forte personnalité que fut celle de saint Athanase d'Alexandrie. La période qui suit ce concile étant effectivement une période difficile, une période troublée, et la réception du concile de Nicée ne s'est pas faite simplement. Non seulement ça, mais on peut dire que les empereurs qui succéderont à Constantin seront hostiles à Nicée. Ce sont les règnes de Constance II, puis de Valens. Et il faudra attendre le règne de Théodose pour arriver à une période de stabilité qui sera marquée par le concile de Constantinople en 381, qui est le deuxième concile œcuménique, où s'exprimera une autre très grande figure de l'Église, saint Grégoire de Nice, qui environ 335-394, qui fut un des plus grands théologiens de l'Église. Le concile marque la fin de ce qui divisait en fait les chrétiens. Pour le dire en deux mots, l'arianisme remettait en cause la divinité du Christ. On reviendra plus en détail là-dessus dans le courant du cours. Le deuxième problème qui agitait aussi la chrétienté, c'était la divinité de l'Esprit-Saint. Donc il faudra attendre là aussi toute une certaine période de maturation avant que cette divinité de l'Esprit-Saint soit acceptée. Avec Théodose, donc on arrive à une période où finalement la chrétienté, l'Empire chrétien peut s'épanouir. Cet empire, quel est-il? Eh bien, cet empire, c'est l'Empire romain, tout simplement. Et on peut dire qu'il va se maintenir, au moins dans sa partie orientale, jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, donc très longtemps. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'au IVe siècle, donc à l'époque qui nous intéresse, nous avons vraiment une unité. Chacun a conscience d'être un Romanus, qui appartient à un ensemble plus vaste, qu'il va appeler la Romania. Dans le monde de langue grecque, c'est les Roméoi, Roméi, qui vont désigner les citoyens de cette région, et ils vont garder ce nom pendant au moins un millénaire. Et le Proche-Orient médiéval appellera l'Empire byzantin Roum et les chrétiens les Roumis. Donc, tout ça, c'est intéressant, si vous voulez, parce que on voit que dans cet empire, il y a une forte conscience d'appartenir à un empire romain, et les gens s'appellent romains, Roméi, Romios, comme on dirait en grec moderne. Alors, mais d'où vient la notion de Byzance et l'empire byzantin? C'est une notion qui a été forgée artificiellement par des historiens occidentaux et qui ne s'est vraiment répandue qu'au XIXe siècle. Mais maintenant, elle était tellement reprise, y compris en Grèce, que tout le monde parle de l'Empire byzantin, et je serais plus ou moins obligé de le faire. Mais il faut voir que, si vous voulez, cette notion est une notion artificielle, probablement pour des raisons idéologiques liées à, si vous voulez, la notion d'héritage de l'Empire romain. Qui étaient les Romains? Qui étaient les héritiers de l'Empire romain? Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une autre histoire. Voyons un peu la société de cette époque. Si on regarde un peu le monde classique, comme disait Socrate, nous vivons autour d'une mer comme des grenouilles autour d'une mare. Et effectivement, la mer Méditerranée est au centre de l'Empire. Elle joue un rôle essentiel pour le transport des marchandises. Et les villes sont souvent, les grandes villes, les grandes cités, sont souvent construites à proximité de la mer pour des raisons évidentes d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que les villes dépendent de l'approvisionnement extérieur. Elles dépendent du blé essentiellement. Rome dépend beaucoup du blé venu d'Afrique. Constantinople importe chaque année 75 200 tonnes de blé venu d'Égypte. Voilà. Ça vous donne une idée de l'importance de ce mouvement de marchandises et de cette mer. À l'intérieur des terres, les cités dépendent du territoire environnant et les paysans sont soumis à de lourds impôts. Bien sûr, l'Empire, c'est aussi tout un réseau de routes sur lesquelles circulent les soldats, les messagers, les administrateurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que un membre de l'aristocratie, par exemple, sénatoriale d'une ville, peut très facilement se retrouver dans une autre ville où il ne sera pas dépaysé du tout. À partir de 200, on voit que l'Empire s'éloigne de plus en plus de la mer et il est gouverné par une oligarchie dont la langue, la culture, les goûts sont d'une étonnante uniformité. Et c'est le cas de l'Orient, où le même grec est parlé dans les différentes cités. En fait, on voit, si vous voulez, que l'insertion dans l'Empire passe par l'adoption d'un certain mode de vie qui est celui de l'oligarchie, avec ses codes. La Romanie, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est aussi un peu une île soumise à des pressions constantes. Ces pressions sont celles des barbares. En 410, Rome sera ravagée par les Goths, alors qu'en Orient, la pression viendra des Perses sassanides, puis évidemment du monde arabo-islamique. Et en 640, c'est la conquête de l'Égypte par l'émir Amr ibn al-As. Cela veut dire aussi qu'il y a une tension permanente sur les frontières. Cela veut dire aussi que l'armée joue un rôle déterminant. Elle sera de plus en plus nombreuse. Et à partir de 260, une révolution militaire va sauver l'Empire et en écartant l'ancienne aristocratie sénatoriale au profit de soldats professionnels. L'armée va doubler de taille et c'est peut-être le plus fort contingent qu'on ait connu dans l'histoire de l'Antiquité. Elle va atteindre jusqu'à 600 000 hommes, ce qui est énorme. Ce qui veut dire aussi que les impôts vont croître en proportion, parce qu'il faut nourrir tous ces gens. Suite à la conversion de Constantin, bien sûr, toute une série de nouvelles personnes vont apparaître, une nouvelle aristocratie de service qui va s'installer au sommet de la société. Ce sont des fonctionnaires salariés qui, d'ailleurs, vont profiter d'une certaine stabilité. Le développement du christianisme dans les couches supérieures de la population est lié à la montée d'hommes nouveaux au service de la cour impériale. Cette nouvelle classe a l'impression de vivre dans un monde restauré, qu'on appelle la Reparatio Saeculi, ou le siècle de la restauration. Mais cette période se caractérise aussi par l'élargissement du fossé entre les pauvres et les riches. Les pères de l'Église ne manqueront pas de stigmatiser l'égoïsme et le luxe insolent des riches. Celui-ci se manifeste surtout dans les demeures. Ainsi, à Constantinople, qui va être fondée en 324, on dénombre pas moins de 4388 hôtels particuliers. Je passe sur les revenus, enfin, disons simplement que les revenus d'un sénateur peuvent atteindre 120 000 pièces d'or, et que pour un paysan, c'est 5. La nouvelle politique favorise l'apparition d'une nouvelle aristocratie issue des familles locales. Et à ce moment-là, si vous voulez, le grand propriétaire terrien va jouer un rôle de plus en plus important dans la société. C'est lui qui va être l'intermédiaire obligé pour les classes inférieures par rapport notamment à la levée des impôts. Toute tentative pour se protéger passe par l'intermédiaire de cette oligarchie. Ces grands propriétaires vivent dans des demeures absolument superbes. Nous les connaissons parce que nous avons des descriptions par les pères de l'Église eux-mêmes. Nous avons aussi des fouilles qui ont été faites, qui ont trouvé donc des restes. Ce sont des demeures et d'un luxe incroyable, qu'avec des jardins somptueux, de dimensions considérables, avec des promenoirs, des galeries, des gymnases, des piscines, des fresques, des mosaïques, où, évidemment, on se livre à toutes sortes de divertissements, ce qu'on appelle les symposia, qui sont en fait des beuveries, avec des bouffons, des danseurs. Ce qui est significatif, c'est que on a retrouvé de telles demeures d'un bout à l'autre de l'Empire. Et que c'est à peu près la même chose. Or, le fait de pouvoir construire de telles demeures est lié au fait qu'une petite partie de la population puisse s'approprier les richesses, accumuler les richesses. Saint Jean Chrysostome, ne manque pas de dénoncer ces pratiques. Si l'on examinait, dit-il, comment ils se conduisaient à l'égard des pauvres cultivateurs, on verrait qu'ils sont plus cruels que les barbares. À ces gens consumés par la faim et épuisés par le travail, ils imposent des contributions incessantes. Ils se servent de leur corps comme d'ânes et de mulets. Les misérables n'ont d'autre recours que d'emprunter, et l'usure est un grand danger qui est dénoncé dans un serment contre les usuriers par Grégoire de Nice. Combien à cause de l'usure se sont pendus ou livrés au flot du fleuve et ont jugé la mort plus légère que le prêteur. Ils ont laissé les enfants orphelins ayant la pauvreté comme cruel marâtre. Saint Grégoire nous décrit l'extension de cette misère. Les mendiants et les vagabonds ne manquent pas. Partout on peut voir la main qui demande, la main tendue. Le toit de leur maison est l'air, leur abri les portiques, les carrefours et les coins de rue déserts de l'agora. Ils gîtent dans des trous comme des chauves-souris et les bêtes. Leur vêtement est une loque rapiécée. Les plus misérables sont les infirmes et les malades. Et bien sûr, parmi eux, les lépreux. Je vous passe la description que les pères donnent de ces lépreux, c'est vraiment horrible. Saint Basile de Césarée, le premier, va fonder une institution qui fut appelée la Basiliade. Destinée à tous, elle servit surtout aux lépreux. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on voit ces réactions de ces pères chrétiens, mais qu'on a aussi des réactions de païens. Et par exemple, un grand rhéteur de l'époque, qui s'appelait Libanius, a une toute autre attitude. Il n'éprouve que mépris pour eux. Que dit-il ? C'est une lie de gens sans aveu. Il s'agit de gens sans profession ni domicile fixe, une collection d'apatrides et de déracinés que la ville a eu le tort de recueillir. Vous voyez l'approche différente du paganisme et celle du christianisme. Les évêques chrétiens se situent dans une toute autre perspective. Le prêt à intérêt est considéré par eux comme un vol. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Grégoire de Nice, par exemple, condamne sans ambiguïté l'esclavage, qui est très important quand on connaît l'importance des esclaves dans l'Empire. Pourquoi, dit-il ? Pour deux raisons. Parce que tout homme est libre et autonome. La liberté, première raison. Deuxième raison, parce que chaque homme est créé à l'image de Dieu. Et créé à l'image de Dieu, sa valeur est inestimable. Je le cite. De quel prix vas-tu le payer ? Que trouveras-tu dans les êtres à donner en échange de sa nature ? À quel taux estimes-tu la raison ? Combien d'oboles verseras-tu pour l'image de Dieu ? Troisième point, les pères considèrent que les richesses naturelles appartiennent à tous. Je cite encore Grégoire de Nice qui s'exprime sur ce point. Le mien et le tien sont des mots funestes. Ils étaient étrangers à la vie primitive. Comme le soleil est commun à tous et l'air, et comme avant tout la grâce de Dieu est commune, ainsi tous les autres biens étaient également en commun à la disposition de tous. Il est normal, bien sûr, qu'il y ait un partage entre les êtres, mais ce partage doit être égal. Comme on le voit, les pères de l'Église sont très loin d'être éloignés, si je peux dire, des préoccupations de leur temps. Ils sont bien enracinés, ils sont bien dans la culture, dans la société de l'époque. Ils n'hésitent pas à intervenir. Ils n'hésitent pas à affronter les autorités lorsqu'ils estiment que c'est nécessaire. Premièrement, pour des régions de dogme. Par exemple, Saint Athanase d'Alexandrie. Saint Athanase d'Alexandrie, qui va défendre le concile de Nicée, et qui sera 5 fois condamné à l'exil. Il passera 12 ans de sa vie en exil. Par exemple aussi, Saint Jean Chrysostome, qui payera très cher le fait d'avoir critiqué la cour impériale. Si les pères sont bien de leur temps, ils ont aussi réalisé quelque chose de très important. Je veux dire l'union de la culture gréco-latine avec le christianisme. Si en Occident, on peut considérer que saint Augustin va jouer un rôle important dans ce sens, en Orient, on peut considérer que saint Grégoire de Nice prolonge en quelque sorte les efforts des Alexandrins. Je pense à Clément d'Alexandrie, par exemple, et puis bien sûr, je pense à Origène, qui a eu quand même cette volonté d'essayer d'intégrer la culture grecque dans le christianisme. Ces pères sont ouverts à la culture, à tous les aspects de la culture, on va le voir. Le père de saint Basile et de saint Grégoire de Nice était un sophiste, c'est-à-dire une sorte de professeur d'université. Saint Basile fait ses études à Constantinople et à Athènes, tandis que saint Grégoire de Nice a étudié sous la direction de son frère. Il se fit rhéteur, profession qu'il exerça jusqu'à son élévation à l'épiscopat en 372. On peut même dire que certains pères ont pu être tentés de se donner vraiment entièrement à cette culture. Et c'est le cas de Grégoire de Nice, qui a hésité à un moment dans son orientation. Et on peut s'étonner, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que les sophistes ont joui d'un tel prestige au IVe siècle? Et c'est peut-être en ces temps où les barbares menaçaient l'Empire qu'on a éprouvé, si vous voulez, l'importance et la valeur de la belle forme, le culte du verbe. Libanius, qui est un grand rhéteur, parle du sanctuaire de la culture, de l'initiation à Hermès et aux muses. Pour lui, s'initier au grec, c'est participer à la paideia, P-A-I-D-E-I-A, paideia, l'éducation grecque, qui a un double sens. C'est tout à la fois rentrer, s'initier aux auteurs, et en même temps, c'est un mode de vie. Pourquoi? Parce que on considère qu'un homme, si vous voulez, ce qui pourrait correspondre le mieux, c'est la notion d'honnête homme du XVIIe siècle. Un honnête homme de l'époque, c'est un homme qui a eu une bonne éducation, et que cette bonne éducation lui a aussi formé le jugement. Par exemple, Julien l'Apostat dira « Une bonne éducation ne se distingue pas à nos yeux par la somptueuse harmonie des mots et de la parole, mais bien par la saine disposition d'un jugement raisonnable et par la justesse des opinions sur le bien et le mal, le beau et le laid. » Julien l'Apostat serait clamera des Hélènes. Et c'est pas inintéressant de voir, si vous voulez, les deux termes qui vont rentrer, qui commencent à rentrer en concurrence en quelque sorte. Hélène et Roméos. L'un fait appel à la culture grecque classique, l'antiquité païenne. Roméos renvoie à l'empire chrétien, l'Empire romain. N'oublions pas non plus que ces textes, si vous voulez, sont écrits dans une langue qu'en fait les gens ne parlent pas. Et ça devait faire à peu près le même effet qu'un français cultivé qui entend du latin. On connaît la langue parlée par d'autres sources, par d'autres biais, et donc tous ces textes qui nous sont parvenus sont écrits dans une langue qui n'était pas vraiment parlée, qui devait être assez proche, pas trop loin, du grec moderne. C'est une époque de diffusion de la culture, et surtout des écritures. Et l'on va passer ainsi du papyrus, du rouleau de papyrus, au livre, au codex. Faut noter aussi que l'extension du monachisme est un facteur de culture. Pourquoi ? Parce que le moine doit savoir lire et écrire. Et s'il ne le sait pas, on lui apprend. La culture traditionnelle, ou paideia, dont on a parlé, d'œuvres littéraires. L'enfant va d'abord chez le grammaticus, pas la peine de retenir ça, qui lui apprend à lire et à écrire. Puis chez le grammaticos, qui est le professeur de littérature. Ce qui est juste intéressant de retenir, c'est que les techniques qui sont utilisées pour commenter les textes le seront par la suite pour commenter les textes bibliques. Et donc vous avez un lien qui est très étroit et intéressant entre les techniques d'explication de textes et la critique ou les commentaires bibliques. Après l'étude chez le grammaticos, vers le dernier stade de la formation littéraire, la rhétorique, qui s'apprend chez le sophiste. Cette formation comprend une culture générale comportant des éléments de philosophie et de science, mais tout entière orientée vers l'éloquence et non vers la recherche. Et il faut bien voir aussi qu'à l'époque, ce qui domine, c'est un peu cette éloquence d'apparat. Une culture donc oratoire, superficielle, qu'on a pu caractériser comme étant celle de la seconde sophistique. Cette culture est importante. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur d'ascension sociale. La personne qui l'acquiert peut prétendre à certaines positions dans la société. L'œuvre de Grégoire de Nice est caractérisée aussi par cette prose artistique. Qu'est-ce qui la caractérise ? C'est par exemple des néologismes, des images brillantes, des descriptions de petits tableaux, le goût pour des expressions contrastées, ce qu'on appelle des oxymores, en fait, c'est-à-dire, par exemple, voir consiste à ne pas voir, en parlant de Dieu. Ou trouver Dieu consiste à le chercher, ou le désir de l'âme est comblé par la même qu'il reste immobile. L'âme avance du fait même qu'elle reste immobile. Ces expressions se prêtent admirablement au paradoxe mystique. On pense à Philon, avec la sobre ivresse, ou la ténèbre lumineuse. Il y en a créé d'autres, par exemple le sommeil éveillé, la mort vivante. Cette éducation fait partie de l'éducation des jeunes païens. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on verra que les pères s'intéressent aux sciences de l'époque, à tous les aspects de la science. Ils s'intéressent à la médecine. Ça se sent très bien dans leurs traités. Je pense par exemple au traité sur la création du monde, ou aux discussions... Savoir quand est-ce que l'âme est donnée à l'embryon, que le père Jean Boboc tenait bien. Et cette culture est répandue aussi par le fait qu'il y a une institution qui permet de noter en quelque sorte très rapidement ce que les gens disent, et c'est l'institution des sténographes. Des notaires, qui sont en fait des secrétaires qui enregistrent les discours. Et il va de soi que les sermons et les catéchèses des prédicateurs étaient considérés comme des actes publics qui méritaient enregistrement. Le discours joue un rôle important que les pères transposeront dans la vie officielle de l'Église. Ce sont les inaugurations des conciles, les célébrations des martyrs. C'est un genre nouveau. Au IVe siècle, on voit apparaître ce genre nouveau parce qu'auparavant, on ne connaissait guère que l'homélie biblique. Et évidemment, cela s'explique en raison du fait que l'Église s'insère de plus en plus dans la société et donc est amenée à jouer un rôle officiel. Face à cette culture, le rôle des pères sera double. mise en garde contre les dangers que cette culture païenne peut représenter. Parce qu'elle peut donner, peut faire illusion, donner une sorte d'idéal esthétique. Saint Basile, par exemple, va écrire un petit traité sur la lecture des auteurs profanes en soulignant les dangers. Mais en même temps, les pères veulent préserver ce que cette culture a de positif. Et c'est l'image des Hébreux de l'Exode qui emportent avec eux les trésors de l'Égypte. En fait, leur attitude n'est pas nouvelle, elle reprend celle des Alexandrins qu'on trouvait chez Philon, qu'on trouve chez Origène. C'est donc un discernement. Et ce discernement est nécessaire. La culture en soi n'est pas mauvaise, au fond, tout dépend de ce qu'on en fait. Saint Jean Chrysostome insistera vivement sur la responsabilité des pères qui poussent sans cesse leurs fils vers des belles carrières qui procurent honneur et richesse. Parce qu'ils voient dans les études littéraires le meilleur moyen de leur assurer un futur. Plût au ciel que le seul mal fût celui-là, que vous ne donnez jamais des conseils utiles à vos fils. Le mal ne serait pas si grand. Mais à cette heure, vous les poussez même vers le nuisible. De fait, quand les pères exhortent leurs fils à l'étude de l'éloquence, on ne les entend jamais rien dire que ceci. Regarde un tel, homme de rien, né de gens de rien, il a acquis un grand pouvoir grâce au talent oratoire. Et il a obtenu de hautes charges, et il s'est rendu très riche et a épousé une femme bien pourvue. Regarde cet autre, il a appris le latin et il brille à la cour, il dirige toutes les affaires extérieures. N'oubliez pas que les pères, s'ils dénoncent ces excès, ce mauvais usage de la culture, les pères étaient eux-mêmes des orateurs exceptionnels. Je voudrais vous citer juste un texte de Saint Jean Chrysostome. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Croyez-moi, je vous parle directement. Quand on m'applaudit dans mes discours, là il faut expliquer un petit peu. Lorsque le prêtre parlait, il était sur une sorte d'estrade dans Antioche, c'est connu, c'est une estrade semi-circulaire, et entouré de gens. Et dans les premiers rangs, vous aviez les grands personnages, etc. Beaucoup de gens se rendaient à l'église pour écouter le beau discours qu'allait prononcer Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome le savait, et c'est ce qu'il dit là. Croyez-moi, je vous parle directement, quand on m'applaudit, oui, parce que les gens réagissaient. Les gens réagissaient au sermon. Maintenant, ça ne se fait plus, heureusement, parce que ça ne serait pas très agréable. Mais ils applaudissaient ou ils huaient l'orateur. Et il dit, donc, quand on m'applaudit dans mes discours, sur le moment même, je ressens quelques satisfactions d'ordre humain. Pourquoi m'abstiendrais-je de dire la vérité ? Je suis content, je fonds. Mais quand, de retour chez moi, je réalise que ceux qui m'ont applaudi n'en ont tiré aucun profit, ou même à supposer qu'ils eussent dû en profiter, ils ont perdu cet avantage sous l'effet des ovations et des louanges, je souffre, je gémis, je pleure, je me trouve comme si j'avais tout dit en pure perte, et je me dis à moi-même, à quoi bon pour moi ces sueurs, puisque mon auditoire ne veut retirer aucun fruit de la part des discours que je prononce. L'éloquence est un instrument qui peut être mis au service des passions ou de l'Église. En fait, les pères cappadociens sont des représentants de cette sophistique. Mais alors que chez les païens, cette prose apparaît comme totalement superficielle, chez les auteurs chrétiens, animés par une inspiration profonde et informés par l'ardeur de leur foi et la richesse de leur doctrine, cela donne quelques-unes des plus belles pages de la littérature chrétienne, et la prose superbe de Saint Grégoire de Nice en Orient répond à celle de Saint Augustin en Occident. Je vous remercie.